Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masserita.
De l'actualité, reprise du trafic ce jeudi matin au poste frontalier de Kasumbalesa au lendemain d'une journée agitée. Les chauffeurs zambiens accusent les autorités de la RDC de ne pas assurer leur sécurité. Lancement à Kongolo de la sensibilisation des parents à scolariser les enfants, filles et garçons. Dans ces territoires de la province et du Tanganyika, le ministère de l'EPST constate non sans amertume que plusieurs enfants, filles et garçons n'ont pas repris le chemin de l'école. Notre invité, c'est Gérard Bissambou. Ce membre de la plénière de la CENI affirme que son institution d'appui à la démocratie a bouclé l'élaboration de la cartographie électorale. Il confirme pour décembre prochain l'enrôlement des électeurs. Madame, messieurs, bonsoir. Ouvrons par une page économique avec la reprise du trafic ce jeudi matin au poste frontalier de Kasumbalesa après une journée agitée. Les chauffeurs zambiens accusent les autorités de la RDC de ne pas assurer leur sécurité. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga s'est rendu personnellement en Zambie pour discuter de ce problème, ce qui a permis de décanter la situation. À Lubumbashi, une correspondance de Jean-Gandou Kabongo.
Ce jeudi, la frontière est réouverte. Les petits commerçants transfrontaliers sont de nouveau visibles dans les couloirs piétonniers, se dirigent les uns en Zambie, les autres en reviennent avec toutes sortes de marchandises. La vie a donc repris son cours normal, à la grande satisfaction de ces derniers, car ce mercredi, ils se sont vus refuser l'accès en Zambie par des transporteurs des grands camions de la Zambie, et la frontière est restée fermée toute la journée. Pour les chauffeurs en colère, la RDC n'assure pas leur sécurité. Et par moments, on a assisté à des jets de pierres entre les manifestants et les Congolais, qui voulaient coûte que coûte se rendre en Zambie. La police zambienne est même intervenue en faisant usage de gaz lacrymogène. Une délégation dirigée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga s'est rendue en Zambie et a pris langue avec les autorités de ce pays, conduites par le ministre de la Défense, pour trouver des solutions à ces problèmes. À l'issue de la rencontre, quelques résolutions ont été prises, à savoir la reprise du trafic dès ce jeudi en accordant priorité aux camions en stationnement du côté Zambie, le renforcement de mesures de sécurité par les autorités congolaises qui ont à cette occasion communiqué aux représentants des chauffeurs de la SADC le numéro vert à utiliser en cas de besoin une fois sur le sol congolais. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et au Congo central, le ministre provincial de l'économie va en guerre contre les expatriés qui vendent quotidiennement en détail au détriment des autochtones. Après avoir reçu les audiences des détaillants, Roger Nimi a échangé hier mercredi avec la Fédération des entreprises du Congo FEC et la Corporation des petites et moyennes entreprises où sont affiliés ces expatriés commerçants. Il a annoncé à l'occasion qu'un arrêté sera bientôt signé pour réglementer le commerce en gros et en détail. Objectif affiché, pousser les commerçants expatriés à travailler dans le respect des lois du pays hôte. Reportage à Matadi de Nana Plurichmambou.
Cette force d'hausser les tons contre les commerçants expatriés, le ministre provincial de l'économie du Congo central dit l'avoir tiré du décret-loi numéro 011/37 du 11 octobre 2021 interdisant aux commerçants étrangers d'exercer les petits commerces. Selon lui, cette disposition légale est bafouée par plusieurs commerçants expatriés. Dans leurs grands magasins, les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, les cosmétiques, les appareils électroménagers sont vendus en détail, voire à un prix plus bas que chez les détaillants nationaux. Pour le ministre provincial de l'économie, cette situation est inadmissible. Roger Nimi.
Ce sont des Congolais que nous devons protéger. Et nous ne pouvons même pas accepter qu'un expatrié puisse se faire lui-même importateur, à la fois agence en douane, à la fois vendeur grossiste, à la fois détaillant. Ça, en tout cas, devant l'État congolais, des choses comme ça ne peuvent pas passer.
Au cours de la réunion initiée par les ministres provinciaux de l'économie entre la Fédération des entreprises du Congo et la Corporation des petites et moyennes entreprises, Roger Nimi a vulgarisé et distribué les textes de la loi réglementant les commerce en RDC. Il dit leur avoir accordé un mois pour qu'ils en prennent connaissance et s'y conformer. Suivra la signature par les gouverneurs des provinces d'un arrêté réglementant les commerces pour protéger les petits commerces qu'exercent les Congolais. Matadi, Nana Plurichmambou, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, lancement hier mercredi au Tanganyika de la campagne de sensibilisation des parents sur la scolarisation des enfants, filles et garçons dans les territoires du Congolo. Le ministère provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui mène cette campagne a constaté non sans amertume que plusieurs enfants n'ont pas repris le chemin de l'école. Pour en parler, retrouvons Akalemi Polemunanga.
D'après certaines sources, dans les territoires du Congolo, la campagne se fera à travers les voies des ondes et des messages qui seront lancés régulièrement dans des rues et avenues des Congolos. Pour le sous-directeur de la province éducationnelle Congolo 1, jusqu'à ce jour, après la rentrée scolaire, plusieurs enfants traînent encore en famille, d'autres accompagnent leurs parents au champ ou sont envoyés dans la rue en train de vendre arachides, beignets ou autre chose. Certains parents disent qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter les objets classiques. Le sous-prophète souligne tout de même les difficultés auxquelles les écoles primaires sont confrontées avec cette gratuité de l'enseignement. Mwenge Bin Pungu.
Il est vrai que ce mouvement massif des enfants, suite à la guerre de Kabambare, nous ajoute encore les enfants. Ce que moi je demande d'abord au chef d'établissement, c'est d'accueillir les enfants qui viennent de l'autre côté, tout comme les enfants qui traînaient dans les familles. On doit les inscrire. Maintenant, la difficulté, c'est le pléthore que nous retrouvons dans les écoles. Ces enfants deviennent nombreux pendant que nous avons les moindres classes où les enfants doivent étudier. S'ils deviennent nombreux, nous faisons les études, comment est-ce que nous pouvons les encadrer?
Cette campagne de sensibilisation va s'étendre sur une période de 3 mois. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale de la paralysie cérébrale. À Beni, au Nord-Kivu, le directeur de la clinique dénommée Dieu est grand attribue cette maladie à une complication de 12 nerfs moteurs autour du cerveau et qui commande quotidiennement tous les systèmes nerveux du corps humain. Docteur Baba Mutuza prodigue quelques conseils pour se mettre à l'abri du danger. Il est au micro de Marc Marofimbo.
La première chose, comme j'ai dit ici, on en parle presque tous les jours, l'automédication. L'enfant qui fait la fièvre 1, 2, 3 jours, on ne le garde pas à la maison. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi la façon de vivre. Un mode de vie, ça, il faut manger équilibré. En protéines, en lipides et en protides. En vitamines aussi. Mais à côté de cela, il faut éviter des graisses. Il faut éviter beaucoup de sucreries. Il faut éviter la sédentarité. Les gens qui peuvent plus faire ne fût-ce que 10 mètres à pied pour aller au travail, revenir, et prendre au 31, on est en véhicule. Ça, il faut éviter. Il faudra aussi éviter les excès du tabac et de l'alcool, par exemple. Avoir le temps de se relaxer, c'est-à-dire éviter le stress. À côté de ça, ce qu'il faut faire en réalité, avoir des renseignements sur ses parents. Est-ce qu'ils avaient présenté telle ou telle autre pathologie? Si oui, commencez les soins tôt. Les mal chez nous, c'est que nous rendons à l'hôpital quand nous sommes déjà en phase de complications. C'est pas ça la bonne médecine. La bonne médecine, c'est la médecine préventive. Faire des check-ins réguliers pour détecter très tôt les phénomènes morbides et les combattre très tôt afin de ne pas tomber dans les séquelles. C'est ça la prévention primaire.
Pendant ces temps, au nord Ubangi, les habitants de Gbadolité, ceux des territoires de Mobaimbongo et de Yakoma, sont confrontés ce jour-ci aux inondations suite à la crue de la rivière Ubangi. Du coup, la pollution des sources d'eau potable a engendré la propagation des matières fécales. Les habitants de ces entités redoutent la destruction des produits des champs. Difficile aujourd'hui de voyager sur les tronçons routiers occupés par les eaux. Témoignage du président du cadre des conseils. Concertation de la société civile, Taylor Taïma Zalo a été joint par Paul Richard Malengela.
Vous savez, nous n'avons pas de route. À l'heure où je parle, je suis à Yakoma, sur la route de Yakoma vers Gbadolité. L'eau de la rivière Ubangia qui se délie, et puis c'est un peu partout, là, même à Yakoma, en centre-ville, il y a signe d'inondation, et tout au long de la route. Donc, je peux vous confirmer qu'il y en a à Bado, ça a commencé bien avant, même à Kambo. Oui, mais les conséquences sont, vous savez que nous avons quelques sites d'habitation. Là, on nous attend à des maladies industrielles. À part ça, le commerce devient difficile. Les gens ne vont pas se déplacer. Et puis, il n'y a même pas de médicaments dans la zone. Donc, nous attendons à une situation catastrophique. Et surtout que ces gens qui n'auront pas les abris, ils n'ont pas de base pour se couvrir en attendant. Donc, la situation est grave. Même les champs, certains champs sont ravagés. Tout au long de la rivière, mais nous passons, tout de suite là, on va traverser par des pirogues pour atteindre l'autre rive sur la RN24. Donc c'est pour nous dire que la situation est terrible dans les coins.
Faisons maintenant un détour par le Nord Kivu où des vastes étendues des champs de maïs se sont ravagées par la chenille légionnaire d'origine américaine dans les territoires de Rutshuru. Un agronome de la zone qui tire la sonnette d'alarme redoute la rareté du produit sur les marchés et la hausse du prix. Il demande par conséquent au ministère de l'Agriculture et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique de disponibiliser au plus vite des nouvelles variétés de maïs. C'est ce que nous explique à Goma Denise Lukeso.
D'après le coordonnateur du réseau d'ingénieurs agronomes pour l'agriculture du Nord Kivu, des vastes étendues des champs du maïs dans le groupement Abouezaï Boukoma, en territoire de Rutshuru, sont déjà ravagées par des chenilles.
Ça fait pratiquement 5 ans que les cas de la chenille sont signalés dans la zone. C'est une chenille qui cause vraiment des dégâts. C'est vraiment un cas général à Rutshuru. Tout le monde connaît, les agriculteurs sont très désolés des cas de dégâts de la chenille.
Jado Matesso redoute de la perturbation et de la faible production du maïs cette saison suite à la présence de ces insectes d'origine américaine dans ces entités.
Nous craignons qu'il y ait de la famine. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de la plupart de nos alertes. Si une fois nos autorités ne mettent pas en œuvre des mesures qui peuvent atténuer ce fléau, il y aura de la famine dans des ménages. Il faut que les autorités puissent amener le plus tôt possible des variétés qui peuvent résister.
Cet ingénieur agronome dit s'inquiéter de l'expansion de cet insecte nuisible dans plusieurs coins et appelle les ministères de l'Agriculture d'approfondir les études autour de cette menace. Pour le moment, les réseaux ne disposent d'aucune mesure curative pour détruire complètement la chenille, souligne-t-il. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
L'actualité, c'est également la poursuite de la réhabilitation de la route de Kimwenza dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa. Des grands ravins ont été troublé ou au niveau de l'arrêt communément appelé 7 km à la satisfaction de la population. Innocent Fadili revient de Kindele Kimwenza. Voici son reportage.
Cette route qui va de l'avenue Bypass jusqu'à l'université Loyola et Kimwenza, en passant par l'Unikin et Kindele, est en pleine réhabilitation. Le point central de celle-ci est le remblaiement du ravin long de 700 mètres et d'une profondeur de 34 mètres. Voilà pourquoi les conducteurs des véhicules, les motocyclistes et piétons ne sont pas restés indifférents et disent être satisfaits.
Par rapport à l'avant, comme le travail, ça a commencé et le travail, ça évolue. Ça évolue bien, parfaitement. À pied, bon, ça pourra te prendre même 30 minutes pour passer ce ravin qui était ici. Maintenant, c'est facile. Après près 5 minutes.
Par contre, les riverains ont des avis partagés sur la qualité des travaux.
Aujourd'hui, nous voyons l'effort de l'État. L'État est là, n'y a même pas suivi. Mais nous demandons à notre gouvernement de faire un petit suivi. Nos maisons et des caniveaux vraiment est trop différent parce que les caniveaux sont en bas et nos passés sont restés en haut. Et le danger, c'est la pluie.
Le directeur de l'Office des voiries et drainage, M. Victor Ntumba, affirme qu'ils sont conscients de l'évolution des travaux et ne peuvent pas accepter de perdre tout ce qui est fait jusqu'à présent. Ils vont mettre des murs des parts et d'autres de la route pour que la terre ne s'écroule plus. Notons que cette réhabilitation a débuté en juin 2019 et avait été interrompue pendant 18 mois à partir de décembre 2019 par manque de financement.
Merci Innocent Fazili pour ces précisions. Crise au sein des entités décentralisées du Congo central avec un impact négatif sur leur développement social et économique à la base. Le non-paiement de la rétrocession depuis plus d'une année. Conséquence immédiate, ces entités décentralisées peinent à réaliser les travaux d'intérêt communautaire. Le coordonnateur de l'initiative pour le développement local affirme que le gouvernement central a déjà envoyé l'argent de la rétrocession dans toutes les provinces. Apollinaire Sonka Ngimbi précise que la province du Congo central a également reçu sa part. À Matadi, Nana Plurich Mambou.
Parmi les dirigeants des entités territoriales décentralisées, dont les travaux d'intérêt communautaire lancés sont en souffrance, figurent Nour Lukombo et Jacques Mbenza, respectivement bourgmestre de la commune de Nzanza à Matadi et chef des secteurs de Loufou dans les territoires de Sekebanza. Si le secteur de Loufou a du mal à réhabiliter des importantes routes de dessertes agricoles, permettant l'évacuation des produits agricoles vers Matadi et Kinshasa à cause de l'absence de la rétrocession, la commune de Nzanza, quant à elle, le bourgmestre affirme avoir des difficultés pour à achever les bureaux des quartiers Belvédère, à sécuriser la population et à gérer les déchets. Alors que les différents responsables de ces ETD se soufflent à réaliser ces travaux, l'ONG Initiative pour le Développement Local IDEL affirme que l'argent de la rétrocession est déjà disponible dans toutes les provinces, y compris le Congo central. Son coordonnateur Apollinaire Tsokangimbi demande au gouverneur des provinces de donner à chaque ETD sa part.
Nous nous sommes rendus au ministère du Budget, au niveau de Kinshasa, et au niveau du ministère des Finances, qui nous ont démontré qu'ils avaient envoyé la part des rétrocessions au niveau des provinces, y compris au niveau de la province du Congo central. Et au niveau de la province du Congo central, nous avons fait le suivi, on a constaté que l'argent est arrivé. Et donc, voilà pourquoi nous demandons au gouverneur des provinces de voir comment donner la part, les milliards de francs congolais, qui est réservé pour les entités territoriales décentralisées, afin que quelques activités d'intérêt public soient réalisées.
Les conseillers politiques du gouverneur de province que nous avons appelés pour réagir au sujet de la demande de l'ONG IDEL promet de répondre dans les jours qui suivent. Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président américain n'a pas exclu ce jeudi matin une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet du G20 qui est prévu en novembre prochain à Bali en Indonésie. Joe Biden répondait ainsi à une question des journalistes qui l'interrogeaient sur la possibilité d'échanger directement avec le président russe pendant le sommet. La Maison-Blanche avait auparavant déclaré qu'une telle rencontre n'était pas possible, mais le projet de voyage des deux chefs d'État reste encore à confirmer. La directrice générale du Fonds monétaire international a appelé ce jeudi les États et les institutions à agir maintenant et ensemble face au risque croissant de récession dans le monde provoqué par l'enchaînement des chocs économiques. Kristalina Georgieva a affirmé que son institution bancaire publiera mardi prochain ses prévisions de croissance pour 2023, des prévisions qui seront révisées en baisse, tout en soutenant l'action des banques centrales contre l'inflation. Elle a alerté tout de même le risque d'un resserrement monétaire trop fort et trop rapide qui pourrait, selon elle, plonger de nombreuses économies dans une récession prolongée.
L'invité.
Notre invité, c'est Gérard Bissambou. Ce membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI affirme que son institution d'appui à la démocratie a bouclé déjà l'élaboration de la cartographie électorale. Il confirme pour décembre prochain l'enrôlement des électeurs. Il est interviewé par Jeff Ngoy.
Gérard Bissambou, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce que vous en êtes au niveau de la CENI avec les préparatifs pour les élections?
Pour tous ceux qui suivent la feuille de route que nous avions publiée le 3 février 2022, ils devront noter que maintenant nous sommes en train de préparer la deuxième grande opération, surtout préélectorale. Nous avons, après tous les préparatifs, nous avons bouclé l'opération de la cartographie. Les données ont été collectées, centralisées et les différents centres d'inscription sont déjà connus. Donc la cartographie est bien bouclée. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer le lancement de la grande opération d'identification et enrôlement des électeurs. Cette opération, c'est celle-là qui va nous conduire à l'une des grandes opérations, celle avant cela donc à la législation des sièges, donc la loi sur la répartition des sièges qui devra être actualisée sur base du nombre d'électeurs, et après nous passerons à la grande opération de l'enregistrement des candidatures et finalement ça va être les scrutins. Alors, en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, vous avez suivi que la CENI avait lancé un marché pour l'acquisition des kits et nous avions attribué le marché à Miru System, qui est une entreprise sud-coréenne qui pour le moment est déjà en train de produire les kits.
Mais la cartographie dont vous parlez, vous venez déjà de terminer, on peut la voir où, la cartographie physique? Est-ce qu'elle est visible même sur le site de la CENI?
Je crois que la cartographie a été finalisée, une décision de l'Assemblée plénière avait déjà été prise, et c'est le président de la CENI, son Excellence Denis Kadima Kazadi, qui est habilité à publier cette décision. Quand la décision sera publiée, les gens en seront...
On revient aux machines que vous avez commandées, dont vous êtes maintenant à l'étape expérimentale, vous louez leur performance, elles ont une imprimante incorporée avec un système solaire bien assuré. Donc, en cas de coupure d'électricité, l'autonomie de toutes ces machines est bien assurée.
L'autonomie est très bien assurée. Il y a une autonomie de plus de 7 heures, il faut le dire. Ça veut dire qu'évidemment, à côté, il y a un générateur. pour alimenter au cas où il y a un problème. Mais déjà avec ces machines, l'autonomie est rassurée pour toute la journée, de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir ce problème de coupure parce que, évidemment, le générateur n'a pas alimenté là où, effectivement, il faut utiliser cela. Ou parce... Non, de ce côté-là, c'est OK. Mais toutes ces options-là...
À cette allure, les choses doivent aller trop vite. Pourquoi l'enrôlement des électeurs doit prendre beaucoup de temps? J'ai appris que ça sera au mois de décembre. Ça peut aller à 2 mois en province. À cette allure, on peut en finir avec l'enrôlement au-delà du mois de février.
Non, oui, mais écoutez, si nous nous référons à l'expérience, à l'histoire de nos élections, de la révision du fichier électoral, en 2004, on a fait aussi le pré-test des machines, mais 2004-2006, l'enrôlement a fait pratiquement 3 mois par province. Et il faudra noter qu'il y a des provinces qui ont fait moins de 3 mois parce qu'on devait tenir autant. En 2016-2017, c'était aussi 3 mois. Et vous prenez en 2009-2010, moi j'ai eu à superviser la sensibilisation pour la révision du fichier électoral ici à Kinshasa, c'était 3 mois. Mais cette fois, la CENI est en train de penser à proposer 2 mois d'enrôlement par province. Mais ce qui est avantageux, c'est quoi? Nous n'allons plus faire face à cette tâche assez ardue et parfois où il y a plusieurs ratés, ce qui retarde d'ailleurs l'opération de déplacement des machines d'une province à une autre. Dans la commande que la CENI a eu à passer, au moins chaque province a son nombre de machines au prorata du nombre de centres d'inscription électorale, outre qu'il y a des machines de réserve qu'il faudra avoir, étant donné qu'il y a certains problèmes qui pourraient arriver et qu'il faudra résoudre.
Vous êtes en train d'exécuter une feuille de route sans un calendrier électoral, sans le budget. Jusqu'à quand le calendrier électoral qui montre au moins les opérations d'une manière chronométrée? À moins d'une année, on va avoir ce calendrier qui risque d'être vidé de son contenu puisqu'il y a déjà une feuille de route. Et quel est le budget des élections?
Je commence par la deuxième question là, par rapport au budget. Jusque là, quand la CENI dirigée par excellence Denis Kadima, notre équipe, nous sommes entrés, d'abord il faudra dire que nous sommes entrés avec 28 mois de retard, alors que le cycle électoral commençait déjà en 2019, mais nous, c'est après 28 mois que nous avons pris possession de notre responsabilité, de nos attributions. Alors, nous avons trouvé un budget qui avait déjà été discuté et fait qui était adopté par l'Assemblée nationale. Donc ce budget avait été en fait élaboré, proposé par l'équipe qui nous a possédé, l'équipe de son excellence le président honoraire Corneille Nangaa. Et donc c'est le budget que nous avons exécuté et que nous continuons à exécuter avec le gouvernement pour 2022. Ça en tout cas, il ne faut pas que les gens se demandent quel est le budget. Ils n'ont qu'à voir dans la loi des finances, le budget est là. C'est le budget qui avait été proposé et adopté, proposé par l'équipe excellence honoraire président honoraire Corneille Nangaa et adopté par l'Assemblée nationale. Alors, pour le moment, nous avons déjà fait une proposition du budget, mais qu'ils attendent. Ici, c'est la session budgétaire qui a déjà commencé. Nous allons voir qu'est-ce que l'Assemblée nationale va décider et quel est le budget qui sera accordé à la CENI. Et je crois que ça va être à la portée de tout le monde, au vu aussi de tout le monde, étant donné que la loi des finances est toujours, la loi financière est toujours publiée. Donc là, il n'y a pas de problème. Par rapport au calendrier, je crois qu'il faut d'abord faire une différence entre feuille de route et calendrier. La feuille de route donne des opérations en les périodisant. Donc nous avons une feuille de route qui existe, qui libère toutes les opérations suivant des périodes auxquelles elles sont assignées. Et nous ne faisons que suivre cette feuille de route. Lorsqu'on va publier le calendrier, vous verrez qu'il n'y aura pas de différence entre la feuille de route et le calendrier. Peut-être quelques petits ajustements.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI, interrogé ici à Kinshasa par Jeff Ngoy. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Irung Mouchige.